Présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Montpellier, des heurts à Hong Kong lors de nouvelles manifestations de militants pro-démocratie, les limites de la stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement malien après une attaque d'un poste militaire particulièrement meurtrière, enfin les partisans de l'indépendance de l'Écosse dans les rues de Glasgow. La réforme de l'assurance chômage, celle des retraites, les coups de menton du président de la République sur l'immigration, qu'est-ce qui impressionne la pellicule des boîtiers des Gilets jaunes? Près d'un an après les premières mobilisations, quelques centaines d'entre eux sont réunis depuis hier à Montpellier. Avec quelle perspective? Quelle métamorphose? Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Diane, vous avez posé ces questions à des Gilets jaunes, mais aussi à des observateurs et ainsi qu'à des commentateurs avisés.
Ils sont plusieurs centaines en ce moment même à la 4e Assemblée des Assemblées. C'est le nom donc de ces rassemblements où des gilets jaunes de toute la France débattent du futur de la mobilisation. Pour Jérôme Fourquet, directeur de l'IFOP et co-auteur du livre Les gilets jaunes révélateurs fluorescents des fractures françaises, c'est le signal d'un changement dans la mobilisation.
Les assemblées des assemblées, on est sur les mouvements, dans les années 70, on parlait d'un mouvement conseilliste ou autogestionnaire avec des assemblées délibérantes. Les gens qui se rassemblent dans ces assemblées des assemblées sont assez politisés pour une partie d'entre eux, plutôt aux sphères de la gauche radicale, de la France insoumise. Cette présence assez importante de cette gauche radicale n'était sans doute pas aussi évidente au début du mouvement.
Une intuition confirmée par Camille Bédoc, politologue au Centre Émile Durkheim de Bordeaux. Depuis bientôt un an, elle travaille avec un collectif de chercheurs sur, justement, l'évolution du profil des gilets jaunes.
Les ronds-points sont plus investis par les classes populaires que les manifestations où on peut retrouver un petit peu plus de classe moyenne et quelques cadres. Et politiquement aussi, on voit que dans les ronds-points, il y a plus de personnes qui soit refusent de se situer politiquement, soit le font un petit peu plus à droite que dans les manifestations. En fait, il y a quand même beaucoup de militants de gauche qui sont dans le mouvement et qui l'ont rejoint. Et ça, par exemple, à l'Assemblée des Assemblées, c'est encore plus marqué. On a vraiment des personnes qui sont très expérimentées et qui n'ont pas le même profil que ceux qu'on peut rencontrer sur d'autres arènes dans le mouvement.
Alors, ces assemblées des assemblées peuvent-elles donner un nouveau souffle au mouvement? Christophe Gilet Jaune fait partie des organisateurs du rassemblement de Montpellier.
L'Assemblée des Assemblées n'est pas représentative de tout le mouvement des Gilets jaunes, personne n'est dupe de ça, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont investies et qui tiennent bon. Le simple fait d'avoir fait ces initiatives de l'Assemblée des Assemblées, ça donne justement une impulsion et des grands rendez-vous pour l'anniversaire du 17 novembre qui arrive. Il y a une forme de maturation du mouvement justement qui va probablement donner beaucoup de choses à l'issue de ces trois jours.
Et pour l'anniversaire du mouvement, justement, Priscilla Ludowski, l'une des figures de la mobilisation, évoquée hier au Financial Times, une action d'envergure sans donner plus de détails.
Merci à vous, Diane Berger. À Hong Kong, les militants pro-démocratie et les forces de police s'accusent mutuellement d'être à l'origine des affrontements qui ont ponctué la manifestation et les deux rassemblements organisés ce samedi sur l'île. 22e week-end de mobilisation, rien à l'horizon de nature à entamer la détermination de celles et ceux qui condamnent l'emprise grandissante de la Chine. C'est un reportage à Hong Kong de Florence Dechangy.
Le bruit d'hélicoptères des forces de l'ordre n'est pas habituel dans le ciel de Causeway Bay, quartier très commerçant de l'île de Hong Kong. Mais c'est désormais par hélicoptère que la police semble diriger les opérations de dispersion. Elle a commencé par les quelques milliers de manifestants qui étaient venus au parc Victoria soutenir les futurs candidats aux élections de district prévues fin novembre. Jasper Heap, étudiant en sociologie, estime que c'est à nouveau l'agressivité de la police qui a fait dégénérer la situation. Il parle à travers son masque à gaz.
Tous les rassemblements étaient pacifiques jusqu'à ce que la police intervienne et ils ont tiré des gaz lacrymogènes sans aucune raison. La plupart des gens sur place n'avaient pas de masque, pas de protection. Et parmi les citoyens, il y avait des enfants, des personnes âgées. Ils ont tous dû respirer des gaz lacrymogènes.
Dans l'une des rues soudain devenues piétonne suite aux barrages érigés par les manifestants, quatre jeunes en tenue décontractée sirotent des thés au tapioca. L'un d'eux, Jim Lan, 17 ans, donne son avis sur la situation.
Je suis sorti de cours à Wan Chai et j'ai tout vu. Je pense que l'attitude de la police n'a aucun sens. Ils tapent les gens, ils ignorent l'état de droit et c'est pour cela que les gens sont en colère. Et donc s'il y a du vandalisme, c'est à cause du gouvernement.
Tout près de là, l'agence de presse officielle chinoise Xinhua a été vandalisée pour la première fois. Une cible éminemment symbolique.
9 enfants tués par l'explosion d'une mine dans le nord-est de l'Afghanistan. Une mine dissimulée sur une route dans un village contrôlé par les talibans dans le district de Darkad, dans la province de Takhar. 1174 civils tués au troisième trimestre de cette année, selon les Nations Unies. 5 candidatures à l'élection présidentielle algérienne du 12 décembre prochain, validées et rendues publiques ce samedi. En lice, les anciens premiers ministres Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis, l'ancien ministre de la Culture Azzedine Mioubi, l'ancien ministre du Tourisme Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd, président du parti du Front El Mostakbal. Les pertes au sein de l'armée malienne sont-elles que des voix s'élèvent pour mettre au doute la stratégie du gouvernement de lutte contre les groupuscules djihadistes. 49 soldats, selon un dernier bilan, sont morts dans l'attaque d'un poste militaire du nord-est du pays, près de Ménaka. L'imam Diko, influente figure religieuse, lance cette saignée que le Mali vit ne peut plus continuer. Kaourou Magassa de RFI nous appelle de Bamako.
L'attaque contre le camp d'Indelimane est la plus meurtrière depuis les affrontements de Kidal il y a 5 ans. 24 heures après, la classe politique et la société civile sont unanimes. La tristesse est profonde et les messages de condoléances nombreux. Au-delà de l'émotion, une question se pose au sein de l'opinion publique, celle de l'efficacité du dispositif militaire et de la présence des forces étrangères. Rappelons que les attaques ont souvent lieu dans des zones reculées. Le Mali ne dispose pas de suffisamment d'avions de combat, ce qui empêche une réaction rapide lors de ces attaques surprises. L'enclavement empêche également l'avancée des matériels roulants. Tanks, chars et 4x4 ont du mal à évoluer, ce qui entraîne des retards dans le renfort. Le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, n'est toujours pas opérationnel après 2 ans d'existence. Avec 4500 hommes déployés dans une zone aussi vaste que l'Europe, l'opération Barkhane ne peut techniquement pas contrôler la totalité de ce territoire. De son côté, la mission de l'ONU au Mali n'a pas vocation à lutter contre le terrorisme. L'option du tout militaire n'est plus l'unique solution étudiée face à des groupes armés terroristes très bien équipés. Depuis plusieurs mois, le Mali et ses partenaires recherchent des stratégies renforçant le renseignement, le développement et la cohésion sociale pour mettre un frein au terrorisme.
La campagne des élections générales britanniques du 12 décembre offre des fenêtres d'opportunité à des organisations qui peinent à convaincre en vitesse de croisière. Ainsi, l'ONG Greenpeace se réjouit-elle de la suspension par le gouvernement de la fracturation hydraulique destinée à extraire du sous-sol du gaz de schiste officiellement en raison des risques de secousses sismiques. Autre corps qui, à contrario, serait prêt à une rupture, le Parti national écossais, dont la présidente Nicola Sturgeon a appelé ses partisans à exiger un nouveau référendum sur l'indépendance. En 2014, le non l'avait emporté et 2 ans plus tard, au référendum de juin 2016 sur le Brexit, 62% des Écossais se sont opposés au départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Londres, Marina Daras.
C'était la première fois que la première ministre écossaise prenait la parole officiellement à un événement indépendantiste depuis sa défaite lors du référendum de 2014. À l'époque, les Écossais avaient voté à 55% pour rester au sein du Royaume-Uni. Mais bien évidemment, le Brexit a ravivé les volontés sécessionnistes de l'Écosse. Une Écosse profondément européenne puisque les Écossais avaient voté à 62% pour rester au sein de l'UE. Pour Nicola Sturgeon, qui était l'architecte du tout premier référendum sur l'indépendance de l'Écosse, le Brexit a dramatiquement changé les perspectives de son pays et Westminster doit autoriser la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance. Mais avec ces nouvelles élections législatives le 12 décembre prochain, l'Écosse redevient importante aux yeux de Westminster car si le SNP, le parti de Nicola Sturgeon, reprend aux conservateurs quelques-uns des 13 sièges qu'ils ont glanés en 2017, on peut s'attendre à voir un Parlement sans majorité, auquel cas un premier mandat pour le travailliste Jeremy Corbyn serait envisageable et un autre référendum sur l'indépendance de l'Écosse deviendrait alors une possibilité. Et c'est ce que Nicola Sturgeon espère, un gouvernement travailliste qui l'autoriserait à organiser un référendum d'indépendance pour sortir son pays du Royaume-Uni et retrouver l'Union européenne. Alors devant une marée de drapeaux bleus et blancs, Nicola Sturgeon a promis de tout faire pour préserver la réputation de l'Écosse comme pays ouvert, solidaire et européen et de ne pas tomber dans le piège américain tendu par Donald Trump. Elle a même mis Jeremy Corbyn et Boris Johnson au défi de l'affronter lors d'un débat politique pour, dit-elle, enfin entendre leurs arguments.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Après 8 départements de l'arc atlantique déjà placés en vigilance orange, la vigilance vent a été étendue vers le Massif central à 7 départements supplémentaires, l'Allier, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Puy-de-Dôme et la Haute-Vienne. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique, Olivier Arnet.